et santé, Marina Mielzarek.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Priorité Santé autour de la grippe A aujourd'hui. Et pour nous éclairer sur les traitements, sur les vaccins, risques ou pas risques, telle est la question, et bien deux grands spécialistes du virus. Tout d'abord, dans le studio de RFI, avec moi à Paris, le professeur Jean-Philippe Derennes, professeur de pneumologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Également le co-auteur de Grippe A H1N1, Tout savoir comment s'en prémunir aux éditions Fayard. Et puis au téléphone, avec nous également le professeur Jean-Paul Gonzalez, directeur du Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Alors je ne sais pas si au Gabon, en Afrique, la méfiance est la même qu'en Europe où 150 000 personnes se sont déjà fait vacciner, mais en France, en tout cas, le vaccin anti-grippe A avec adjuvant ou non-adjuvant, eh bien, pose problème. On parle d'effets secondaires, risques, d'autres maladies contractées et très graves à cause de cette injection. Alors, vous, personnellement, professeur Jean-Paul Gonzalez, par exemple, est-ce que vous vous êtes fait vacciner ou est-ce que vous allez le faire ?
Je pense que je ne me ferai pas vacciner parce que je ne suis pas dans une situation à risque, c'est-à-dire de contamination dans un environnement avec des personnes qui seront infectées. Donc il n'y aurait pas de raison actuellement que je me fasse vacciner contre le vaccin. Mais ce n'est pas pour les raisons du vaccin. Je pense que ce qui est très important et ce qui nous montre aujourd'hui, avec cette épidémie et peut-être cette pandémie grippale, c'est que ce sont les manques dans nos systèmes de santé, c'est-à-dire on entendait tout à l'heure cette personne qui nous parlait d'une banale infection nosocomiale à la grippe A au Canada. Je veux dire, ça c'est tout à fait évident et je pense que le professeur de Rennes dira dans le même sens, c'est-à-dire les infections nosocomiales. On est en train de découvrir qu'on peut avoir des infections nosocomiales à l'hôpital par transmission aérienne. Je veux dire, c'est des choses qu'on savait, qu'on sait, qu'on connaît. Donc il faut absolument, mettre au courant le public qu'il y a des façons de se prémunir et de prévenir donc ces infections contre la grippe.
De prévenir, c'est quand même le vaccin, non ?
Non, le vaccin, vous savez, toutes les polémiques qui sont vraies ou fausses sur ce vaccin, on le sait, les vaccins, c'est pas anodin, les vaccins. Quels qu'ils soient, les vaccins ne sont pas anodins. C'est quand même une approche préventive extrêmement engagée, précise, et qui met pas à risque, mais qui présente un certain risque. Donc, est-ce que c'est approprié de se vacciner ? Qui sont les personnes cibles, etc. Donc, je pense que c'est des choses qu'on remet sur l'actualité aujourd'hui, mais c'est tous les ans qu'on se pose la même question. Mais qui doit réagir le vaccin ? Est-ce que le vaccin est prêt ?
Professeur Jean-Philippe Derennes, vous vous êtes fait vacciner contre la grippe A ?
Pas encore, pour des raisons techniques, mais ça ne saurait tarder.
Donc vous allez vous
absolument,
faire vacciner. Vous n'avez pas peur des fameux adjuvants dont on parle et qui pourraient déclencher d'autres maladies graves ?
À ma connaissance, les seules maladies graves que les adjuvants apportent sont le fait que ça fasse un peu plus mal et qu'on risque d'avoir de la fièvre.
Alors, pourquoi se faire vacciner contre la grippe A au lieu de la grippe tout simplement, puisque la Chine a entrepris une campagne massive de la population? Vous approuvez cette mesure, mais contre la grippe tout simplement, puisque...
Contre la grippe saisonnière ?
Contre la grippe saisonnière, oui.
Alors là, pour moi, je veux dire que c'est un problème que je me pose, parce qu'actuellement, si on prend aussi bien les États-Unis, la Grande-Bretagne que la France, pour ce que je connais de résultats, dans les virus grippaux circulants, il y a moins de 1% de virus saisonniers. Alors, le taux d'attaque, c'est-à-dire le pourcentage de la population touchée par la grippe saisonnière, quand je dis la grippe saisonnière, c'est les syndromes grippaux. C'est pour les plus de 65 ans de l'ordre de 0,5%. Là-dessus, il y a 15% de grippe. Et s'il n'y a que 1% de grippe saisonnière dans tout cela, vous voyez, je ne sais pas trop la raison de la vaccination contre la grippe saisonnière aujourd'hui. Est-ce que dans un mois, la situation aura changé ? Je n'en sais rien. Mais comme normalement, une pandémie, c'est le remplacement des virus circulants par un nouveau virus, je me demande si la vaccination contre la grippe saisonnière n'est pas la vaccination contre le fantôme de son propre grand-père. Vous voyez ? Par contre, ce qui est important, c'est la vaccination contre le nouveau virus. La vaccination contre le nouveau virus, elle s'impose, à mon sens, chez tous les groupes à risque. Les groupes à risque, c'est les femmes enceintes, les asthmatiques, les diabétiques, tous les immunodéprimés, les insuffisants respiratoires et les insuffisants cardiaques.
Donc ça veut dire les personnes qui ont également le VIH dans le sang,
dans les immunodéprimés, y a à la fois ceux qui ont une immunodépression native, qui sont construits comme ça, il y a tous ceux qui, pour des raisons diverses, ont une immunodépression. Ça peut être, par exemple, toutes les maladies hématologiques, c'est effectivement le sida, c'est les malades cancéreux en chimiothérapie, c'est un certain nombre d'autres maladies générales, le lupus, etc., qui sont des maladies qui dépriment l'immunité.
Alors, là-dessus, évidemment, vient la question, professeur Jean-Paul Gonzalez, vous qui connaissez l'Afrique et puis les pays en développement, quid des pays en développement, justement, en cas de pandémie? Comment vont-ils faire s'ils n'ont pas les vaccins?
Là, on est encore sur le discours que je connais depuis des années, qui avait été lancé par le professeur Hanoun à l'époque, qui était le grand spécialiste de la grippe, c'est-à-dire tous les ans, à la saison d'arrivée d'un virus grippal en général, il y a des populations à risque et on vaccine les populations à risque. Donc, dans les hôpitaux, si vous voulez, des capitales africaines, on sait très bien qui sont les populations à risque, et s'il y a un risque, on pourra avoir accès au vaccin, puisque l'OMS favorise justement cet accès au vaccin pour les pays en développement. Donc il n'y a pas de souci, a priori.
Alors, ce qui va suivre va nous apporter un point de vue très très intéressant, puisque nous allons en Égypte. Bonjour Alexandre Bouchianti.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes le correspondant de RFI au Caire. Et chez vous, les autorités ne se sont pas posées de questions sur ces soupçons de dangerosité du vaccin anti-grippe. À l'appel de l'Arabie Saoudite, chaque pèlerin voulant se rendre à la Mecque pour le Hajj de fin novembre, donc du mois prochain, doit obligatoirement être vacciné contre la grippe ordinaire, c'est ça, ou contre la grippe A, en fait ?
En fait, contre la grippe A, H1N1, d'ailleurs, qui reste dans le monde arabo-musulman la grippe porcine.
Ben oui, on va y revenir tout au long de cette interview. Mais comment ça se passe alors cette campagne massive de vaccination ? Comment les gens vont dans les gymnases ?
Alors pour le moment, le vaccin n'est tout simplement pas arrivé. On attend les doses de vaccin et en même temps, il y a déjà le ministre qui menace, le ministre de la Santé, qui menace tout médecin qui ferait des certificats de complaisance pour la vaccination de le déférer devant les assises. En même temps, les certificats sont des certificats très sophistiqués, un peu comme le papier monnaie, avec des hologrammes, etc., filigranes et tout. Mais pour le moment, justement, on ne sait pas comment cela va se passer, mais en tous les cas, les Égyptiens craignent beaucoup, comme d'ailleurs les Saoudiens, que le Hajj, avec 3 millions de personnes qui viennent un peu de partout dans le monde, et notamment de régions à risque, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Indonésie, d'Égypte, mais d'autres pays où il y a déjà des maladies endémiques autres, que cela ne déclenche une sorte de pandémie à leur retour dans leur pays d'origine.
Alors Alexandre, le pèlerinage est une chose, l'école en est une autre. Là aussi, en Égypte, il y a beaucoup de mesures et plutôt radicales dans les établissements scolaires.
Tout à fait, puisque pratiquement les écoliers n'étudient plus, pratiquement. C'est-à-dire qu'on a divisé par 4 le temps d'études des écoliers, puisque une classe moyenne dans un établissement étatique égyptien était de l'ordre de 80 élèves. Donc comment arriver à un chiffre acceptable pour éviter qu'il n'y ait contagion? On a décidé d'abord que les élèves iront un jour sur deux, et puis on a aussi divisé les élèves avec des élèves qui vont le matin, d'autres qui vont le soir. Donc résultat, les parents sont satisfaits, tout le monde est satisfait, puisqu'on est en train d'alléger d'ailleurs les programmes, et de plus, ça s'est traduit aussi par un masque obligatoire qui a été vendu aux élèves le premier jour et qui, au fil du temps, n'est plus tout à fait un masque, mais n'importe quoi.
Donc, les Égyptiens n'ont pas de mouvement de panique, j'allais dire. Ils se prémunissent normalement. Ils portent leur masque s'ils achètent un masque, etc.
Oui, ils portent des masques. Beaucoup de parents, d'ailleurs, selon... ce que leur dit leur enfant, lui disent, écoute, tu vas pas demain, puisque le gosse, plus ou moins à côté de toi, avait l'air pas en forme. Donc il y a un absentéisme assez important. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de terreur qui s'installe. Par ailleurs, les universités, elles aussi, ont entamé des mesures pour prévoir éventuellement le cas où il faudrait fermer, chose qui est jusqu'à présent rejetée. Mmh. Mais en tous les cas, ils ont demandé l'aide américaine pour faire des studios, 5 studios dans les universités égyptiennes pour pouvoir faire de l'enseignement à distance. Et les écoles se préparent aussi au niveau de la télévision étatique.
Ça veut dire ?
Ça veut dire que la télévision étatique a des programmes dits programmes éducationnels classiques.
Et de là, télétravail, en fait.
Oui, mais on va rajouter. Donc, résultat, il y aura 24 heures sur 24 sur une dizaine de chaînes hertziennes ou par parabolique, les cours qui seront diffusés, qu'on pourra voir, et aussi sur Internet. Sur Internet, c'est encore pas le cas.
Mmh. Et puis, dernière question, Alexandre Bouchanti, mais lors de cette préparation d'émission, vous m'avez dit au téléphone que cet abattage massif des porcs, hein, des cochons auxquels on a assisté en Égypte, pour cause de grippe du cochon, justement, pose aujourd'hui beaucoup, beaucoup de problèmes dans les rues.
Oui, tout à fait, puisque on a abattu 300 000 cochons. Ces 300 000 cochons, pour se prémunir contre la grippe dite porcine, et donc ces 300 000 cochons mangeaient 3 000 tonnes de détritus chaque jour, de détritus, reste de nourriture, qui ne mangent plus, et que donc les ramasseurs de poubelles n'enlèvent plus, et donc résultat, le cœur est en train de crouler sous les immondices, faute de cochons.
Merci infiniment, Alexandre Bouchanti, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée en Égypte.
Posez vos questions à Priorité Santé, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22.
Pas de céder à la panique, mais tout de même de vous donner des conseils pratiques. Par exemple, professeur Jean-Paul Gonzalez, on l'a entendu avec notre correspondant Alexandre Bouchanti au Caire nous parler de cette grippe qu'on a appelée tout d'abord la grippe du cochon. Est-ce que cela signifie que les populations et nos auditeurs à RFI qui nous écoutent en zone rurale, qui vivent au contact d'animaux ou très proches, doivent s'éloigner des bêtes ou non ?
Non, mais là encore, on est dans une situation d'une banalité pour moi qui est du pain quotidien, c'est-à-dire que les zoonoses existent, bien entendu, le contact avec les animaux existe. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait avec cette fameuse grippe ? On a fait peur aux gens. Donc c'est vraiment le dernier des moyens en matière de santé, en matière de prévention, c'est faire peur. Tout à l'heure, on entendait cette Mexicaine qui nous disait « Les gens ont peur, ils mettent un masque, ils n'ont pas peur, ils enlèvent le masque. Mm. » C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, il faut éduquer les gens. Et on est toujours sur ces questions. Les maladies virales transmissibles par voie aérienne, on ne sait pas faire. Il faut éduquer, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit au Caire ou que ce soit ailleurs. Donc, on est vraiment dans une nouvelle, j'allais dire, dynamique de prévention des maladies, où on s'aperçoit que les maladies, ce n'est pas un virus et un malade, mais c'est un environnement, un système, et c'est une approche systémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur ces extrémités en disant c'est la grippe du cochon, on tue tous les cochons, ou ici, en milieu rural, on va pas supporter les cochons, on va s'éloigner, etc. Non, c'est vraiment, on est vraiment dans une réflexion, et je crois que ce sera vraiment un des héritages de cette grippe H1N1, c'est-à-dire que d'une prise de conscience dans les systèmes de santé par les gens pour éduquer un public.
Professeur Jean-Philippe de Rennes, pour continuer sur cette lancée très très pratique, par exemple, là non plus pour ne pas céder à la panique, mais tout de même, qu'est-ce que vous conseillez aux gens? De continuer à voyager, de prendre l'avion, de prendre le train, d'aller au bureau, tout simplement?
Tout d'abord, je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire le professeur Gonzalez. Je pense que c'est comme ça qu'on doit poser les questions et pas comme l'ont fait les Égyptiens en tuant tous les cochons parce qu'en fait, ils avaient été incapables de tuer les animaux, les volailles qui étaient infectées par le H5N1. Hein. En ce qui concerne la vie, eh ben, la vie, c'est la vie, elle doit continuer. Tant que nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas dans une situation de pandémie, parce que pandémie, je pense qu'il faut redonner au mot pandémie son sens. Le mot pandémie, c'est tout, ça vient de pan en grec, qui veut dire tout, et demos, le peuple. C'est une chose qui fait référence à une quantité, autrement dit, à une proportion d'individus qui sont atteints. S'il y a 0,1% de personnes atteintes, on n'a rien à voir avec s'il y a 30% ou 50%. Donc nous ne sommes pas... actuellement, ces soi-disant pandémies, ça touche plein d'endroits dans le monde, mais simplement une épidémie étendue à de nombreux pays où le taux d'attaque est faible. Donc quand on sera en période... si on est, parce que personne ne sait si ça viendra, s'il y a une pandémie avec effectivement un gros taux d'attaque, ben, il vaudra mieux éviter certaines choses. Mais sinon, ben, faut vivre normalement, mais en faisant simplement attention. Je pense que le rapport que l'on doit avoir vis-à-vis de la grippe, je ne parle pas des dirigeants qui doivent faire un autre rapport. C'est exactement le même rapport que quand on traverse une rue. Si on traverse une rue, on regarde à droite, on regarde à gauche, pour pas se faire écraser, on n'a pas le cœur qui bat, on fait simplement attention.
Priorité santé sur RFI.
Marina Mielzarek. Alors nous parlons depuis le début de cette émission, c'est une émission sur la grippe A qui ne ressemble à aucune autre, hein, très très RFI-esque j'allais dire, puisque nous parlons et nous parcourons le monde entier. Aux États-Unis, un vaccin nasal est donné aux enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par le nez? Pour justement
ouais,
le faire accepter.
Je ne sais pas. Je n'ai pas de... Comment dirais-je? Parce que les vaccins nasaux sont souvent des vaccins vivants atténués. Je ne sais pas si c'est le cas de celui-ci, que je ne connais pas. Hein. Je serais très réservé si c'était un vaccin vivant atténué. On ne doit vacciner contre la grippe que par un vaccin qui soit un vaccin mort. Et qui ne risque donc pas de se reproduire.
Professeur Jean-Paul Gonzalez, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus?
Oui, non, tout à fait. Je pense que cette invention d'un vaccin nasal vient de la tradition, si vous voulez, du modèle expérimental avec le furet qu'on a infecté de façon expérimentale avec le virus. Et on s'est aperçu, évidemment, que cette infection fonctionnait très bien puisque c'est le modèle expérimental. Mais aujourd'hui, passer chez l'homme, et comme le disait le professeur de Rennes, si on utilise un vaccin vivant atténué, il y a un risque très important. Par contre, l'idée est intéressante puisque c'est un vaccin qui se transforme par l'oropharynx, qui se transmet par l'oropharynx de façon par aérosol. Donc c'est intéressant, effectivement, de vacciner in situ à la porte d'entrée du vaccin. Donc, du point de vue expérimental, c'est intéressant. Je veux dire, passer à un système prévention publique, je serais aussi assez réservé.
Donc, quand on apprend que le Brésil, par exemple, vient de passer un marché avec les laboratoires pharmaceutiques, en faisant chuter de $11 à $5 la dose de vaccin contre la grippe A, comment est-ce que vous recevez cette information, vous, professeur Jean-Philippe de Rennes? Ça veut dire qu'en fait...
Ce que je ne sais pas, c'est si à 5,5 $, ça couvre les frais de fabrication. Parce que vous savez, il y a actuellement, pour les laboratoires pharmaceutiques, un gros problème d'image de marque. Les vaccins ne sont pas des choses qui rapportent beaucoup d'argent. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, vous faites les nouvelles technologies dans le cancer.
Donc ce fameux lobby pharmaceutique pour faire vendre des vaccins et apeurer les populations, vous n'y croyez pas, vous, pour faire vendre justement leur marchandise ?
J'y crois d'autant moins que si je crois par contre des informations provenant d'un des laboratoires qui fabrique ce vaccin, le vaccin avec l'adjuvant n'a été fabriqué que parce que nous avions écrit le livre sur la grippe aviaire il y a 4 ans. Voilà, hein, que c'est son dit. On risque de se retrouver, s'il y a une pandémie H5N1, hein, pas H1N1, mais H5N1, avec les capacités de vacciner 5 à 6% de la population mondiale. Il faut absolument qu'on multiplie ça. Et toute la technologie qui est utilisée aujourd'hui pour le H1N1, en fait, a été développée pour le H5N1. Et comme le disait le professeur Gonzalez tout à l'heure, si... le H5N1 muté de façon pandémique, alors là, on serait pas du tout dans la même situation qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, l'utilisation des adjuvants est due au risque du H5N1. Alors,
Et d'ailleurs, adjuvant, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ?
Adjuvant, c'est tout simplement le fait que, au lieu d'avoir, vous faites, c'est simplement, les vaccins sont faits avec plusieurs technologies. La technologie classique, c'est une culture sur œuf de poule embryonnée, et ensuite, après avoir trituré tout ça, on a une protéine qui sert pour immuniser. Et normalement, c'est 15 microgrammes. Là, avec l'adjuvant, on a les mêmes résultats en termes d'anticorps produits par l'organisme avec 3,75 microgrammes. Autrement dit, ça permet de faire 4 doses de vaccin au lieu d'une avec la même quantité d'œufs. Oui.
Professeur Jean-Paul Gonzalez, je me tourne vers la fenêtre ici dans ce studio à Paris. Pour le moment, le soleil brille, il fait un temps de printemps et pourtant nous sommes en automne. Sans faire de prédictions et sans jouer les pitis, mais quand même, votre scénario pour là, les prochains mois et les prochains mois d'hiver quand le froid et la grisaille vont venir et les risques de maladies divers, quel est-il ce scénario, si je vous le demande comme ça à brûle pour point?
Mais très sérieusement, vous ne savez pas que la grippe en général, la grippe saisonnière, donc circule autour de la planète et passe de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. C'est ce qu'on a vu déjà pour le H1N1. Donc nous, on est à l'équateur, au Gabon, et on n'a pas vu passer le virus. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de cas. Malgré le développement d'outils diagnostiques, on a identifié un cas de grippe aviaire qui était évidemment un cas importé au Gabon, et on n'a pas vu passer la grippe. Donc très sérieusement, c'est pas pour ce qui concerne en fait la région intertropicale, il y a pas vraiment de souci sur le changement climatique. Maintenant, dans nos régions tempérées, effectivement, on sait que le virus circule plus favorablement à l'entrée d'hiver. J'ai pas d'éléments supplémentaires pour dire qu'il faut se prémunir plus que chaque année à la même saison contre la grippe.
Bon, on va demander au deuxième monsieur météo médical de nous prédire son scénario pour les mois à venir, pour le professeur Jean-Philippe de Rennes.
Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, je crois qu'on. Vous savez, il faut bien prendre conscience d'une chose. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on assiste au développement d'une épidémie grippale de ce type. Jamais. Ça ne se compare à rien d'autre, puisque jamais, pour simplement, il n'y avait pas les outils pour le faire. Donc, ce que l'on connaît dans l'histoire des pandémies grippales, c'est, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Là, on est en train d'observer la partie de l'iceberg qui est sous l'eau. Alors, en prédire ce qui va se passer à la sortie, est-ce qu'on va avoir finalement une épidémie avec 5% des gens malades, ou est-ce qu'on va avoir une pandémie à 15, 30, 50%, comme on l'a vu dans le passé, même des, il y a même eu des endroits où, et, où la pandémie a touché 90% de la population, personne ne peut le dire. Il faut simplement observer, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je crois que j'aurais écrit une critique, pas du tout sur cette émission, mais sur la manière générale dont les choses sont présentées, tant par les pouvoirs publics, en tout cas en France, que même par l'OMS. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau, nous observons un phénomène...
Ils le disent tout de même, que c'est quand même nouveau, sans précédent...
Oui, mais on ne le dit pas de cette façon.
Le docteur Chan, la directrice, l'a dit quand même.
Oui, mais on ne le dit pas de cette façon. C'est-à-dire que ce n'est pas dit d'une manière positive. Moi, je crois que, bien sûr, c'est une maladie. Mais ce qui est positif, c'est que le public peut avoir les informations en temps et en heure, et que les pouvoirs publics dans les différents pays doivent avoir, eux, les responsabilités correspondant aux possibilités évolutives. Et donc, voilà. Et puis, arrivera ce qui arrivera.
Et qui vivra, verra. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux, professeur Jean-Philippe de Rennes, et puis à vous aussi, professeur Jean-Paul Gonzalez. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, c'est déjà la fin malheureusement. On va se quitter, merci à Françoise André pour la réalisation de cette émission, merci à Juliette Gerbrand pour le choix des invités, merci aussi à Claudine Larcher pour les questions d'auditeurs. À la technique aujourd'hui, Nicolas Doro. Demain, dans Priorité Santé, le nouveau visage des philanthropes. Où vont les dons humanitaires? Salut à tous, tout de suite, les informations sur RFI.
Vous souhaitez réécouter Priorité Santé? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.